1804, là nous sommes à la période où effectivement, post-révolution française, où il y a eu la restauration, puis on est passé sous un régime du directoire et un régime consulaire avec Bonaparte, Cambacérès et Lebrun. Le Code civil français revient sur la réforme du divorce, il devient judiciaire et très contraignant. Donc il faut une autorisation des parents, imaginez juste un instant. Bref, continuons. 5 comparutions au tribunal, interdiction de remariage dans les 3 ans. Si on passait maintenant en 1816, le divorce finalement est de nouveau supprimé. C'est la loi Bonald, effectivement, qui précise que le divorce, on n'y a plus droit. Puis 1848, une date plus connue pour l'abolition de l'esclavage. Cela dit, concernant le divorce, on parle effectivement de proposer de rétablir le divorce. C'est un non ferme et définitif, peut-être, de l'Assemblée. Et au final, on se rend compte qu'en 1876, le député Alfred Naquet propose une restauration du divorce pour faute. C'est toujours un échec, ça ne marche pas. En 1884, le 27 juillet, Alfred Naquet revient, remet le couvert, et il fait accepter sa loi finalement sur le divorce. On précise que le divorce sera accepté en cas de faute grave précise, donc adultère, condamnation à une peine afflictive et infamante, excès, sévices et injures graves. On dénombrera à partir de 1885 près de 4000 divorces. Puis on va vers plusieurs amendements. Alors on commence par 1886 où on essaie effectivement de simplifier les procédures. Puis en 1893, la pleine capacité est donnée à une femme qui divorce. Le 15 décembre 1904, une loi autorise le mariage de l'épouse adultère avec son complice. Oui, vous avez bien entendu. On modifie même le sort des enfants adultérins. En 1808, une loi... Pardon, en 1908, pardon... J'ai loupé un siècle. Le 6 juin, plus exactement, une loi permet de rendre obligatoire pour le juge la demande de conversation de séparation de corps en divorce, présentée par l'un des deux époux 3 ans après leur jugement. Donc, en gros, il faut qu'il y ait des traces, des conversations entre les époux montrant qu'ils sont en désaccord. Ce qui a permis aux avocats de se faire un peu d'argent, puisqu'ils dictaient à leurs clients les différentes lettres d'insultes à noter et ils se les envoyaient les uns les autres. Ce qui a d'ailleurs pas mal inspiré les comédies de boulevard d'un certain Sacha Guitry. On dénombrera 21 000 divorces en 1927, puis 27 000 en 1939, toujours sous le régime de la loi du 6 juin 1908. Enfin, la période un petit peu plus contemporaine de Vichy à nos jours, donc à la période du régime de Vichy, en 1941, c'est un gouvernement qui est un peu moins, qui est plus porté du moins sur certaines valeurs apparemment, et il empêche le divorce des couples mariés de moins de 3 ans. Ensuite, pour l'époque contemporaine purement, le 11 juin 1975, Valéry Giscard d'Estaing promulgue la loi 75-617, elle retient 3 causes qu'on a vues dans le Code civil à l'article 229. Consentement mutuel, demande conjointe, demande formulée par un époux et acceptée par l'autre. Enfin, rupture de la vie commune et faute. Ce sont les seuls moyens que l'on peut avoir pour divorcer. Puis, le 12 décembre 2007, plus proche de nos jours, proposition de déjudiciarisation du divorce, je suis arrivé, je ne vais pas le répéter, au bénéfice des notaires qui enregistrent le constat de divorce par consentement mutuel en demande conjointe. En gros, on veut encore rentrer dans ce système de simplification du divorce, du moins sur le plan administratif. Et puis, 2 janvier 2014, un projet de loi est proposé sous l'égide de la garde des Sceaux Christine Taubira pour la créature d'un super greffier qui prendrait en charge ces affaires de divorce sur le plan uniquement du consentement mutuel. la réforme, ou du moins la tentative, est avortée. Puis 10 ans plus tard, après la loi de 2004, on permet aux couples séparés de réunir virtuellement des documents nécessaires et à l'avocat d'y accéder pour rédiger les actes sur mesure. Comprenez, on veut que ça aille plus vite. Plus vite et que ça soit plus simple. Et si on passait à quelques statistiques ? Pour les statistiques, 130 000 divorces par an en France. 1,8 mariages pour un divorce. Vous voyez la proportion. Première cause de divorce, l'infidélité. Autant vous dire que pour ce qui est de l'infidélité, on constate qu'elle est croissante sur un certain plan. Évolution du nombre de divorces en France, donc 44 738 en 1792 au 1972. Je suis un peu dyslexique, moi. 44 738 en 1972, 130 000 aujourd'hui. Ça a évolué. Taux de divorcialité à 10, environ 10 couples sur 1000 divorces. 44% des mariages se finissent par un divorce. Les hommes divorcés ont en moyenne 42 ans, les femmes divorcées en moyenne 44 ans. 50% des divorces le sont par consentement mutuel. 10% par faute. Pour faute. Alors, quelques causes. À 33%, l'infidélité, on l'a dit tout à l'heure, effectivement, c'est ce qui motive en premier lieu les divorces. Ensuite, à 22%, égoïsme du partenaire. 15%, mauvais caractère. 15%, comportement abusif. 15% encore, désaccord sur l'avenir, les enfants, animal domestique, etc. Incompatibilité, 10%. Argent, travail, 10% encore. Et enfin, les beaux-parents, ce qui n'est pas à négliger, 10%.
Ce ne sont pas des causes exclusives, hein, il peut y en avoir plusieurs, puisqu'on atteint pas, on dépasse les 100%. Il peut y avoir plusieurs causes évoquées pour le divorce.
Petite question, avant... Petite question, à votre avis, entre les femmes et les hommes, qui demande le plus le divorce ? Vous avez lu. Qui pense que c'est plutôt les femmes ? D'accord. Qui pense que c'est les hommes ? D'accord. Ceux qui ont dit que c'était les femmes ont raison. Effectivement, ce sont les femmes qui demandent plus. Cela peut s'expliquer. Ça ne veut pas dire que les hommes ne demandent pas. Mais en tout cas, effectivement, les femmes sont celles qui, en pourcentage, demandent le plus le divorce.
Ça aussi, c'est une évolution qui est due au fait que la femme acquiert de l'indépendance, financière. Ces droits ont été reconnus, donc ce qui a donné à la femme la possibilité de demander elle-même le divorce.
Vous voyez quand même la frontière déjà ténue entre, d'un côté, les droits que l'on acquiert, et de l'autre côté, les valeurs que l'on peut avoir. Bon, ça, on en reparlera. Donc, 70% des femmes qui divorcent travaillent. C'est l'illustration qu'on vient de vous donner à l'instant. Dans 80% des cas, la femme obtient la garde des enfants. Dans 66% des cas, le domicile conjugal est attribué à la femme. Alors, deux catégories principales de divorce. D'un côté, le divorce à l'amiable, qu'on appelle également consentement mutuel. Et enfin, le divorce contentieux, celui qui vous coûte énormément d'argent. Une anecdote, vous connaissez un certain Jeff... Ah, tiens, voilà. Jeff Bezos, effectivement. Combien ? 38 milliards. 38 milliards qu'il doit donner à sa femme pour son divorce. C'est le PDG d'Amazon, il a un peu de sous, hein. Comment ?
110 milliards.
Oui, à 110 milliards, ça va, il peut partager. N'empêche, il a dû effectivement faire un chèque de 38 milliards à sa femme. Continuons. Les conséquences. Si on abordait effectivement les conséquences.
Alors, les conséquences, il y en a beaucoup. Le divorce, c'est quelque chose de douloureux. C'est quelque chose qui n'est pas voulu, qui n'est pas prévu et qui fait mal. Le divorce, c'est en fait la rupture du contrat de mariage qui unit sur le plan juridique deux personnes ayant décidé de partager leur vie affective, économique, sexuelle, sociale, désirant construire une famille et établir de nouveaux liens de filiation et descendance. C'est ce qu'on trouve en psychologie. C'est la définition que l'on donne. Et il se trouve que le divorce est un échec de ce projet-là, de ce projet de vivre à deux, de partager tout cela. Et un échec, c'est douloureux. Un échec, ça fait mal, ça laisse des traces, ça a des conséquences. On trouve parmi ces conséquences pour les conjoints donc ce sentiment d'échec sur le plan psychique et affectif, une estime de soi blessée, une confiance en l'autre qui est fragilisée, mais aussi un projet d'avenir à deux qui est détruit. Cela entraîne parfois des angoisses, la dépression, c'est la solitude, c'est la blessure de la trahison, de s'être offert à l'autre et finalement de tout perdre. C'est la blessure d'avoir promis d'être ensemble, de construire ensemble, de vivre ensemble, et finalement de laisser tomber. Et ça entraîne aussi une vie spirituelle fragilisée. Parce que quand je suis blessée, quand je suis mal, quand j'ai du mal à faire confiance en l'autre, eh bien je peux avoir du mal aussi à revenir vers Dieu, à avoir confiance. Je peux aussi me sentir coupable de cet échec, de cette séparation. Il est difficile de reconstruire lorsqu'on a vécu un divorce. Il faut retrouver l'estime de soi-même, il faut retrouver confiance en l'autre, il faut savoir quels sont nos nouveaux projets de vie, construire de nouvelles relations, un nouveau lieu de vie, un nouvel équilibre dans la structure familiale, surtout s'il y a des enfants. Et puis cela peut entraîner des difficultés financières, matérielles. Il y a des situations dramatiques sur ce plan-là. J'ai lu une situation de quelqu'un qui a été était en conflit avec sa femme. Ils sont sur le point de divorcer et la femme dénonce son mari comme étant sectaire. À ce moment-là, les services sociaux se mettent en marche, sachant qu'ils ont un enfant. Les services sociaux, un ou des enfants, je ne sais plus, se mettent en marche et estiment qu'effectivement, il peut y avoir un risque. Donc, en attendant que le jugement soit prononcé, le mari doit quitter la maison. Mais oui, le mari n'a pas d'autre solution. Il n'a pas d'autre endroit où vivre. Et je lisais que cet homme a dû dormir sous une tente. Demander même l'autorisation, je crois, avant de trouver d'autres solutions, parce qu'il n'avait pas les moyens de prendre une nouvelle location, c'était compliqué. Voilà. Un divorce, ça entraîne des difficultés financières. C'est aussi un parent qui se retrouve seul à élever ses enfants, à payer la maison, et avec un seul salaire, parfois. C'est pas anodin. Et puis c'est aussi comme conséquence un manque de proximité avec les enfants pour le parent qui n'a pas la garde. C'est la solitude dans l'éducation des enfants pour celui qui a la garde des enfants. Et c'est difficile. Quand on a des enfants, on sait qu'au quotidien, c'est pas facile. On a besoin d'être à deux. On s'épaule quand on est à deux. On s'encourage, on se soutient. Quand il y en a un qui craque, l'autre est là, il prend le relais. Mais quand on est seul avec les enfants, c'est difficile. Je reviendrai après sur les conséquences sur les enfants. Ce sont des relations familiales et sociales qui sont abîmées, qui changent. Certaines relations se rompent parce qu'on avait construit, par exemple, cette amitié en couple. et le couple se casse, ben, ses relations disparaissent. C'est parfois la famille, certains membres de la famille qui n'approuvent pas le divorce et les relations deviennent compliquées. C'est des personnes qu'on aime mais qu'on ne voit plus, parfois. C'est le mariage se fait entre les deux conjoints, mais aussi avec la famille et les familles. Les relations que l'on a avec notre belle-famille, c'est pas une relation uniquement de personnes que l'on côtoie. C'est un lien particulier qui se construit parce qu'il y a ce mariage. Je sais que, personnellement, j'ai un frère qui a divorcé, mais avec sa belle-famille, on est restés très proches. On a des contacts qui restent comme lorsqu'il était marié, parce que ben, c'est quelque chose de spécial. Le lien du mariage est fort. Et puis donc, il y a les enfants. Lorsqu'il y a des enfants dans le foyer, eh bien, ils souffrent du divorce. Il y a beaucoup d'études sur le sujet qui montrent que les enfants... Alors, évidemment, ce n'est pas tous les enfants de divorcés, je tempère. Tous les enfants de divorcés ne vont pas souffrir de la même façon. Mais voici ce que l'on peut trouver pour les enfants de divorcés. Les angoisses, parfois la culpabilité, les enfants pensent que c'est de leur faute si leurs parents se sont séparés. C'est la dépression, la perte de la joie de vivre, la perte de l'intérêt, du sens de la vie. C'est un manque de relation avec le parent éloigné. Lorsqu'on n'est plus ensemble au quotidien, eh bien, il faut construire différemment. Le parent n'est pas toujours disponible, c'est difficile. À l'inverse, lorsque le parent qui n'a pas la garde des enfants sait s'investir auprès de ses enfants, ça donne aussi des choses très belles. Parfois, le parent est tellement mal à la maison qu'il n'arrive pas à investir auprès de ses enfants. Et il est possible, même si on n'a pas la garde des enfants, de construire quelque chose de fort avec les enfants. Mais beaucoup vont souffrir malgré tout de l'éloignement. Les enfants peuvent avoir une difficulté à construire une image d'eux-mêmes belle et forte, et encore plus une image du couple. Il y a, alors je n'ai pas trouvé les statistiques, parce que je crois qu'il n'y a pas eu d'études en France précises là-dessus, mais beaucoup d'enfants dont les parents ont divorcé, eh bien, ne vont pas se marier, parce qu'ils vont estimer que le mariage, de toute façon, sera voué à l'échec. Ou vont avoir des difficultés à construire un couple durable. Voilà. Lorsqu'on construit un couple, on y projette une image que l'on a de ce couple. Comment ça doit se passer, comment doit être la relation, comment ça va durer dans le temps. Et si l'image que l'on a est négative, ça va être difficile de projeter une image positive sur notre couple. Les enfants peuvent avoir des manques de repères et d'accompagnement, c'est-à-dire que un certain nombre d'enfants dont les parents ont divorcé vont avoir des problèmes à l'école, ne vont pas poursuivre leurs études ou vont être en décrochage scolaire. Certains vont adopter des comportements dans l'excès, dans l'addiction par exemple. Et vont avoir des difficultés, vont choisir des relations qui ne seront pas bonnes pour eux. Et pour les enfants, eh bien, la construction spirituelle aussi est plus difficile. Parce que les enfants se construisent spirituellement à partir de l'image de la relation qu'ils ont avec leurs parents, à partir de ce que leurs parents leur montrent, de ce qu'est Dieu, de ce qu'est la vie spirituelle. Et dans les cas de séparation, de divorce, eh bien, c'est plus difficile de construire une relation solide et belle avec Dieu. C'est pas impossible, évidemment. Hein. Encore une fois, ce sont des propos généraux, mais ça ne veut pas dire que tous les enfants vivent cela comme ça. Alors, on s'est posé la question avec Laurent, de comment le divorce est vu dans notre Église aujourd'hui. Parce que mine de rien, on sent, on voit que ça évolue. Mais à quel point ? Alors, on a lancé un petit sondage que l'on a fait rapidement. On n'a pas pu traiter tous les résultats, parce qu'il y a quand même eu 230 participations à ce sondage. Donc, ça demandait un peu de temps. On traitera de manière approfondie les résultats du sondage et on verra avec Advent Life la possibilité de partager ce résultat pour ceux qui sont intéressés. Mais déjà, quelques éléments aujourd'hui. L'idée de ce sondage était d'interroger les personnes sur quelques questions sur le divorce. Déjà, bon, est-ce qu'eux-mêmes sont mariés, divorcés ? S'ils sont divorcés, comment ils l'ont vécu ? Quelle est la cause du divorce ? Est-ce qu'ils veulent se remarier ? Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on en pense du divorce aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a beaucoup de divorces ? Pour quelles raisons ? Et puis finalement, nous, qu'est-ce qu'on en pense dans l'Église ? Est-ce qu'on pense que qu'on peut être amené à divorcer. Pour quelles raisons ? Voilà. Alors, merci, tu peux passer. Donc, il y a eu 231 participations. 96% étaient adventistes, 48% mariés et 27% seulement divorcés ont participé au sondage. Pour information, la plupart étaient entre 35 et 49 ans et 25-34 ans. Donc, entre 25 et 49 ans. Et puis, c'est beaucoup des femmes qui ont répondu. 74% étaient des femmes. C'est pour donner un peu le contexte de ces éléments de réponse. En fait, aujourd'hui, dans l'Église, puisqu'à 96% étaient adventistes, on pense encore qu'il y a une différence entre le divorce et la séparation de concubinage. Donc, le mariage reste un acte important dans la relation du couple. Puisque s'il n'était pas le cas, une séparation de concubinage aurait les mêmes conséquences qu'un divorce. Et il y a quand même 26% des interrogés qui pensent que le divorce est une option lors du mariage. Oui, tu peux changer. Excuse-moi. C'est quand même intéressant de constater que aujourd'hui, eh bien, on pense. Le divorce est devenu envisageable, plus qu'auparavant. Dans ces personnes interrogées, la plupart, 90%, tu peux changer, estimaient qu'ils ne seront pas amenés à divorcer un jour. C'est plutôt positif, puisque ça veut dire que soit en étant marié, soit en souhaitant se marier, on a le souhait de rester marié. Et pourtant, il y a 36% des personnes interrogées qui sont inquiets à ce sujet. Donc ça veut dire que je ne pense pas devoir divorcer un jour, mais ça m'inquiète quand même. Donc ça reste une idée à laquelle on pense lorsqu'on est marié. Et enfin, pour un couple aujourd'hui, quelle est la probabilité de divorcer, d'après ceux qui ont été interrogés ? Eh bien, on pense quand même que la probabilité de divorcer est forte. À peu près 80% des personnes interrogées estiment que la probabilité de divorcer est moyennement forte ou très forte. Donc notre confiance dans le mariage, aujourd'hui, est quand même affectée. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Aujourd'hui, dans l'Église, le divorce, c'est une réalité. C'est une réalité que l'on doit prendre en compte. C'était tabou autrefois, aujourd'hui, on commence à en parler. Tous les sondés connaissaient des divorcés autour d'eux. Donc on est tous touchés par ce sujet. C'est devenu accessible, voire envisageable, le divorce. Mais ça demande à être accompagné parce que même lorsque l'on ne souhaite pas, on ne souhaite jamais divorcer, mais lorsque l'on n'envisage pas de divorcer, on est inquiet à ce sujet. Et ça demande d'être accompagné avant et après. dans l'Église, il est important d'accompagner les couples qui vont mal. Lorsque un couple commence à exprimer, à parler de divorce, généralement c'est qu'ils en sont vraiment à bout. Il faut anticiper. Soyons attentifs les uns aux autres. Et puis et après. Parce que autour de nous, il y a des divorces. C'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre parce que ça reste mal vu d'avoir divorcé. Ça reste difficile à vivre. Et on doit accompagner les personnes qui ont été amenées à divorcer. Même si elles l'ont choisi, c'est douloureux. C'est pas facile à vivre. Même si elles ont choisi, pris la décision de divorcer, elles en souffrent et elles ont besoin d'aide pour se reconstruire, pour continuer leur vie. Mais on y croit quand même parce que la majorité pense que ce n'est pas option, une option le divorce. Lorsqu'on se marie pour de bon. On ne se marie pas pour se séparer un jour. Dans le contexte de notre société actuelle, on observe que la persévérance et le désir de construction disparaissent trop vite. On abandonne trop vite face à la difficulté. Parce que finalement, l'intérêt personnel, la liberté individuelle prend souvent le dessus. C'est à travailler dans nos églises, dans nos familles, dans nos communautés. Parce que la vie de couple, eh bien, ça se travaille, ça se construit. On n'arrête jamais de grandir ensemble. Parfois, c'est difficile, on ne se comprend plus, on n'a plus les mêmes objectifs, on n'arrive plus à communiquer. Mais ça vaut le coup d'essayer, de continuer. Et malheureusement, lorsqu'il y en a un dans le couple, un ou une dans le couple, qui ne veut plus avancer, c'est difficile d'avancer. Et parfois, certains sont amenés à divorcer parce que l'autre n'a plus voulu essayer et continuer. Et c'est très douloureux, c'est très difficile à vivre. Aujourd'hui, on doit travailler là-dessus. Ça vaut le coup d'accompagner les couples pour reconstruire la relation. Et puis malheureusement aussi, la vie de couple est souvent dissociée de la vie spirituelle, ou alors son importance est minimisée. Et on fait avec nos propres forces, on essaye avec nos propres forces d'avancer, de réparer, d'essayer, puis finalement de dire bah, « j'ai tout essayé, c'est plus la peine ». Il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont divorcé parce que leur conjoint leur a dit « écoute, ça va pas, moi j'ai tout essayé, il n'y a plus rien à faire, donc maintenant je m'en vais ». Face au fait accompli, ben, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est difficile. Et aujourd'hui, malheureusement, on trouve beaucoup ces situations-là. Alors, ce qu'on voulait... c'est vraiment des faits hein, qu'on vous a présentés sur le divorce. Mais ce n'est pas fini. Il est important, on le redit, ça a été dit ce matin, il est important de bien choisir son conjoint. Anticipons. Parce que finalement, s'il y a divorce, c'est que... Il y a peut-être les constructions n'ont pas été bien posées, peut-être. Donc apprenons à nos jeunes à bien choisir leur conjoint. Apprenons à nos jeunes à construire les couples, leur couple, et à inclure Dieu dans ce projet. Qui choisir, mais aussi pourquoi ? Il y a, je pense à une situation aujourd'hui. Une personne qui est veuve, qui s'est remariée, et puis ça ne va pas dans ce deuxième mariage. Et en fait, on se rend compte que la vision qu'elle a du mariage est finalement celle d'un contrat, d'un accord. Voilà, on se marie, ça va être pratique sur le plan financier, on ne sera pas tout seul. Voilà, c'est un arrangement. Mais le mariage, c'est bien plus que ça. Le mariage, c'est l'union de cœur, c'est un projet de vie, c'est l'idée que je ne me centre pas sur moi, mais j'accompagne mon conjoint pour l'aider à devenir meilleur. Et lui m'accompagne pour devenir meilleur. Pour qu'ensemble, on construise quelque chose de beau. Amen.
N'oublions pas finalement qu'il y a une chose qui revient assez souvent, c'est que la dimension sociale et la dimension même sociétale fait que les jeunes aujourd'hui et même les jeunes d'hier se sont peut-être parfois unis suite à une pression. La pression de personnes autour d'eux qui leur disent « Non, à ton âge, tu n'as pas quelqu'un, etc. » Vous entendez ces questions-là parfois ? Pourquoi décidons-nous aujourd'hui de nous marier ? Pourquoi décidons-nous aujourd'hui de construire quelque chose ? Parfois, certaines personnes me disent « Tu sais, Laurent, si c'était à refaire, je crois que je ne me marierais pas. Ou alors peut-être que je réfléchirais plus. » C'est intéressant. Parce que finalement, on se rend compte que pour arriver à la dimension du divorce, il y a plusieurs paliers qui sont franchis. Et lorsque ces paliers sont franchis, on n'est peut-être pas assez attentif. On se rend compte aussi d'une chose, c'est que certains me disent « Ah oui, cette personne-là, avec cette personne-là, on ne s'aime plus. » Est-ce que ces personnes se sont aimées déjà ? C'est une question que l'on peut se poser. Est-ce qu'elles se sont aimées dans le cadre que Dieu avait fixé ? C'est une question que l'on peut se poser. Est-ce que ces personnes ont appris à aimer ? C'est une question que l'on peut aussi se poser. Finalement, n'oublions pas, une fois de plus, qu'il y a plusieurs dimensions. Et traiter la question du divorce, c'est finalement s'attaquer à un problème hyper complexe qui va devoir répondre à la question sociétale, à la question sociale, à la question également sur le plan légal, la question personnelle, mais surtout la question spirituelle.
Est-il possible de